Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous, si vous nous retrouvez dans quelques secondes le journal et à 19h20, grand entretien exceptionnel avec le président de Sanofi France, Olivier Bogilot. Il a choisi Europe 1 pour une grande explication. Pourquoi le vaccin Sanofi n'est-il toujours pas prêt? Est-ce un échec français? On évoquera aussi cette décision de Sanofi qui va donc produire les vaccins de l'américain Pfizer. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions, je m'en ferai le relais. Et puis 19h50, dans le jour où, retour sur un duo choc du cinéma français.
Qu'est-ce qu'il y a?
Bah oui, elle va marcher beaucoup moins bien, la voiture de Funès Bourvil, le Cornio. On en parle tout à l'heure avec les archives d'Europe 1. Le journal d'abord avec Isabelle Millet. 19h, bienvenue à vous à l'écoute d'Europe 1.
Et des voyants au rouge ce soir. Partout sur le front de l'épidémie, on a des chiffres préoccupants. On vous les donnera dès le début de ce journal.
Chiffres qui incitent le gouvernement à envisager un confinement très serré.
À Nice, la situation est tellement préoccupante que le maire vient de prendre un arrêté pour interdire les locations saisonnières. Il ne veut pas de touristes chez lui.
Qui dit potentiel reconfinement dit conséquences financières. Et c'est aussi un facteur qui est sur la table du gouvernement en ce moment. Dossier complet dans le journal.
Et pardon d'enchaîner les mauvaises nouvelles, mais voilà qu'AstraZeneca n'est pas en mesure de fournir à l'Union européenne la quantité de doses de vaccins prévues, il n'en livrera qu'un quart seulement.
Aux États-Unis, après la fermeture définitive de son compte Twitter, c'est au tour de YouTube de booster Donald Trump hors de sa plateforme, de le booter hors de sa plateforme. Il n'est plus président, mais encore dans le viseur, nous dira Didier François.
Un manuscrit dicté et annoté par Napoléon est mis en vente aujourd'hui. Un trésor unique dans lequel il évoque la bataille d'Austerlitz. Les empereurs des océans, eux, sont en approche des Sables d'Olonne, arrivée imminente pour Charlie Dalin.
Elle est impératrice, ou presque. Anissa est avec nous en studio. Anissa, un temps pluvieux au programme demain.
Oui, de la pluie sur quasiment tout le pays demain, avec en plus des vigilances aux avalanches et aux fortes pluies dans les Alpes. Vigilance et avalanche, les deux collés, c'est pas évident. Hein. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le couvre-feu à 18h ne suffit pas pour contrecarrer l'épidémie. C'est désormais une quasi-certitude. Le porte-parole du gouvernement l'a confirmé aujourd'hui.
En conséquence, l'exécutif planche sur plusieurs scénarios, dont celui d'un confinement très serré, très strict, à l'image de celui que l'on a connu au printemps dernier.
En tout cas, il n'y aura pas de prise de parole d'Emmanuel Macron ou de Jean Castex demain, mais un simple point d'information, comme toutes les semaines, sur l'état de circulation du virus par le ministre de la Santé. Pas d'annonce forte à attendre donc dans l'immédiat.
Mais il s'agit sans doute de reculer pour mieux sauter, car s'il y a bien une certitude, Anne Le Gall, c'est que les chiffres et les courbes repartent à la hausse.
Oui, car ces dernières 24 heures, plus de 22 000 personnes ont été testées positives au coronavirus. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, est passé de 190 à 208 en une semaine, malgré le couvre-feu à 18 heures. Le rythme des hospitalisations est lui aussi reparti à la hausse dans beaucoup de régions. Et l'impact du variant britannique plus contagieux est de plus en plus préoccupant. On vient d'apprendre, selon des données consolidées, que ce virus représentait déjà 3,2% des contaminations début janvier et non pas 1,4 comme on le pensait. Selon une étude menée par les hôpitaux de Paris, ce variant anglais représenterait près de 10% des cas aujourd'hui en Île-de-France. D'autres chiffres sont attendus dans les jours qui viennent pour avoir une idée de ce qui se passe au niveau national. Ils seront déterminants. Il y a trois jours, le président du conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy, a prévenu si l'on ne fait rien, il y aura 12, 14, 15% de variants britanniques dans les semaines qui viennent.
Anne Le Gall du service Société d'Europe. Et on va illustrer tout de suite ce que vous venez de nous dire, Anne, avec une région particulièrement touchée, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et oui, les indicateurs sont en rouge partout en PACA, au point que la Commission européenne a recommandé à tous les États membres d'empêcher les déplacements non essentiels vers cette région.
Frédéric Michel, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nice, où la pression s'accentue donc de toutes parts.
Et chaque jour, ils sont de plus en plus nombreux à pousser la porte de l'hôpital. En une semaine, on a aussi dénombré 9 décès dans les hôpitaux des Alpes-Maritimes et 40 personnes âgées dans des EHPAD. Romain Alexandre est le délégué départemental de l'Agence régionale de santé.
On n'est pas une situation de saturation, il y a des lits de disponibles, mais c'est tendu et nous allons probablement procéder à quelques déprogrammations pour armer davantage de lits.
Et comme il l'avait annoncé, le maire de Nice a décidé aujourd'hui de prendre un arrêté pour interdire les locations saisonnières dans sa ville, une mesure pour éviter l'afflux massif de touristes pour les vacances de février. Christian Estrosi.
Personne n'a intérêt à ce que simplement pour grappiller quelques jours de location qui ne sont pas forcément la période la plus remplie, on fera se prendre un risque collectif en faisant venir un afflux important de populations à risque. communication est faite dès aujourd'hui pour éviter aux personnes de réserver ou de prendre ces dispositions pour l'annuler.
Christian Estrosi appelle le préfet à le suivre et même à élargir le périmètre d'interdiction au-delà de sa ville. Il réclame aussi à minima des tests PCR aléatoires dans les gares et à l'aéroport et de traquer les fausses attestations PCR. Car vous le savez, pour entrer sur le sol français, il faut désormais un test négatif et le maire de Nice s'inquiète d'éventuelles fraudes.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans les Alpes-Maritimes. Alors face à cette situation par endroits explosive, va-t-on vers un reconfinement? Et si oui, de quelle ampleur? Il entraînerait en tout cas une nouvelle baisse de l'activité, sans doute de nouvelles aides publiques et donc de nouvelles dépenses conséquentes.
Et c'est un facteur que le gouvernement, évidemment, prend en compte, Aurélien Fleurot.
Oui, et c'est pour cela qu'il y a plusieurs cas de figure envisagés. Et clairement, Bercy craint l'impact d'un confinement trop strict et milite pour qu'une bonne partie des magasins restent ouverts, surtout qu'ils ont de nombreuses remontées de la part des organisations patronales qui alertent sur les conséquences d'un nouveau confinement. Selon les projections du ministère de l'Économie, cela entraînerait une perte d'activité située entre 10 et 18% selon le niveau de contrainte. Par exemple, avec une fermeture des collèges, des lycées et des restaurants d'entreprise, il y aurait une perte d'activité d'environ 10% par rapport à un niveau d'avant-crise. Et en fermant en plus les magasins dits non essentiels, la chute atteindrait 13%. Ce qui est certain, c'est que ce sera moins qu'au printemps dernier où la perte avait été de 32%. Bruno Le Maire a déjà précisé qu'un mois de confinement coûtait au minimum 11 milliards d'euros à l'État en comptabilisant toutes les aides et les dépenses.
Aurélien Fleurot du service Éco d'Europe 1.
À propos d'économie, on connaît depuis aujourd'hui les chiffres du chômage pour l'ensemble de l'année 2020. Sans surprise, ils sont mauvais.
Même si l'année s'est un peu mieux terminée qu'elle n'avait commencé. En tout, donc, pour 2020, on enregistre une hausse de 7,5% du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A.
On parlait à l'instant des différentes options entre les mains du gouvernement au vu de l'aggravation de la situation sanitaire. Il y a depuis cet après-midi un nouveau facteur à prendre en compte à propos de la campagne de vaccination.
Oui, puisque le laboratoire AstraZeneca indique qu'il ne pourra fournir à l'Europe au premier trimestre qu'un quart des doses initialement prévues.
Oui, l'Europe, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas contente, mais alors pas contente du tout.
Et conteste les explications du PDG d'AstraZeneca, selon lequel la production des usines au Royaume-Uni est réservée aux Britanniques en vertu d'un accord conclu avec Londres, 3 mois avant le contrat signé avec l'Union européenne. Écoutez Stella Kyriades, la commissaire européenne à la santé.
Nous sommes en pleine pandémie, nous perdons des gens tous les jours. Les laboratoires pharmaceutiques doivent être à la hauteur de leurs responsabilités morales, sociétales et contractuelles. Nous avons signé un contrat de précommande, précisément pour permettre à AstraZeneca d'augmenter ses capacités de production afin de fabriquer le vaccin à l'avance. L'objectif, c'était de pouvoir livrer un certain volume de doses dès le jour de l'autorisation du vaccin. Ne pas être capable de garantir le rythme de production, cela va contre la lettre et l'esprit de notre accord. Je demande à AstraZeneca de nous fournir des informations complètes et de respecter ses obligations contractuelles et morales.
La commissaire européenne à la santé au micro d'Isabelle Ori à Bruxelles. Et notez qu'à propos de vaccins, à ne pas rater notre entretien exceptionnel dans quelques instants avec l'homme du jour, le patron de Sanofi France, Olivier Bougilot. Il est ce soir notre invité jusqu'à 20h. Il est 19h07. La justice accepte les demandes formulées par les parents du petit Grégory Villemain. Des analyses ADN basées sur les dernières techniques en la matière vont donc être utilisées.
On appelle ça la recherche en parentèle. C'est une technique qui consiste à ratisser large à partir de prélèvements ADN. Elle a permis ces dernières années d'élucider plusieurs affaires.
Plus de 11 ans après le crash du Rio Paris qui avait fait, souvenez-vous, 228 morts, les proches des victimes entrevoient la possibilité d'un procès.
Oui, un procès, c'est ce que réclame en effet aujourd'hui le parquet pour Air France, mais aussi pour Airbus, dont la responsabilité avait été initialement écartée par l'accusation.
Aux États-Unis, il n'est plus président, mais Donald Trump est toujours dans le viseur des réseaux sociaux. Après Twitter et après Facebook, c'est au tour de la plateforme de vidéos en ligne YouTube qui a décidé de clôturer définitivement son compte officiel, qui comptait tout de même près de 3 millions d'abonnés.
Et on en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui permet, Didier, aux géants de l'Internet de prendre une telle mesure?
Alors, la justification qu'ils utilisent pourrait s'appliquer à n'importe lequel de leurs abonnés. Donald Trump a enfreint les règles de fonctionnement, les fameuses conditions générales d'utilisation auxquelles vous avez tous agréé d'un clic un jour sans vraiment les lire, mais qui donnent effectivement ce pouvoir de blocage aux administrateurs des sites. En tout cas, deux infractions lui sont reprochées, la diffusion volontaire de nouvelles, de fausses nouvelles et les appels à la violence. Le problème, c'est qu'évidemment, Donald Trump n'est pas un usager comme les autres. C'est l'ancien président des États-Unis qu'il a utilisé les réseaux sociaux alors qu'il était en fonction. Et pendant des années, les plateformes qui ont largement bénéficié de ces outrances n'ont rien trouvé à y redire. Il a fallu quand même attendre pour qu'elle se réveille que ses partisans lancent un assaut contre le Capitole, utilisant d'ailleurs l'application Messenger pour coordonner leur action. C'est ce que révèle l'enquête en cours du FBI qui a déjà procédé à plus de 400 arrestations.
On peut d'ailleurs penser que ces procédures judiciaires ne sont pas totalement étrangères à la réaction des réseaux sociaux.
Oui, pour ne pas être accusé de passivité complice, hein, sachant que par ailleurs, il n'existe aucune réglementation internationale sur la façon dont un État peut contrôler l'usage de ses réseaux. C'est pourtant un enjeu fondamental quand on sait par exemple que les islamistes utilisent Internet pour recruter ou préparer des attentats, la question se pose exactement dans les mêmes termes pour lutter contre toutes les dérives radicales, quelle qu'en soit la nature. Des négociations sont donc en cours avec les opérateurs, mais c'est un sujet extrêmement complexe, hein, parce que l'appréciation de ce qu'on a le droit de dire ou le devoir de taire dépend énormément de la culture de chaque pays. On risque vite la censure. Aux États-Unis, l'article 1er de la Constitution garantit une liberté d'expression totale, qui donne le droit de parader en uniforme nazi avec un drapeau à croix gammée, voire même une arme automatique. En Europe, évidemment, c'est terriblement choquant, parce que sur le vieux continent, on considère que les mots ont un sens et qu'on ne peut pas les agiter sans en assumer les conséquences. Donc l'apologie du terrorisme, de la pédophilie, du racisme ou de l'antisémitisme ne relève pas du simple débat d'idées. Ce sont des crimes jugés et condamnés comme tels par le système judiciaire.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
Et on va vous parler maintenant d'un vrai empereur qui a marqué l'histoire bien plus que Donald Trump, Napoléon. Napoléon dont un manuscrit est mis en vente à partir d'aujourd'hui. Un document rarissime lors d'Autriche, manuscrit dans lequel il relate avec panache la bataille d'Austerlitz.
Oui, un manuscrit mis en vente pour 1 million d'euros, rédigé par l'un des fidèles de l'empereur, le général Bertrand, et annoté par Napoléon durant son exil sur l'île de Sainte-Hélène. 74 pages dans lesquelles Napoléon a barré des mots à l'encre noire, inscrit des remarques dans la marge avec une écriture minuscule. Il raconte la bataille d'Austerlitz de 1805, sa plus belle victoire, un document impressionnant pour le public qui vient dans cette galerie parisienne.
C'est de me dire qu'il y a Napoléon qui a écrit des choses dessus et que je peux l'avoir devant moi.
On est surpris de voir qu'il a une écriture très petite et surpris aussi de voir qu'il parle de lui à la troisième personne. C'est quand même le manuscrit d'une des plus grandes batailles de France.
Cette bataille que Napoléon a gagnée alors que l'armée française était inférieure en nombre de soldats. Dans ce manuscrit, il détaille sa stratégie, explique Alice Zéro, la co-directrice de la galerie Art et Autographe.
Et à un moment donné, il est marqué, l'empereur avait trouvé le champ de bataille 8 jours avant. Il a décidé où se passait le lieu de la bataille. Et c'est vraiment là où on voit aussi le côté très stratégique de cette bataille.
Un document dans lequel Napoléon inscrit aussi les dates selon le calendrier révolutionnaire. Alors qu'au moment où il écrit, cela fait 15 ans qu'on n'utilise plus ce calendrier.
Les précisions signées par l'ordre d'Autriche.
Alors eux n'ont pas remporté la bataille d'Austerlitz, j'allais dire d'Autriche, mais viennent de mener un sacré combat sur les océans.
On vous retrouve en direct des Sables d'Olonne. Corinne Boulot, pour l'arrivée des premiers concurrents du Vendée Globe, cette fois c'est une question de minutes, hein.
Oui, ce sont sans doute les minutes les plus longues hein, quand un navigateur réussit le tour de force de boucler un tour du monde en solitaire. Charlie Dalin a désormais moins d'une cinquantaine de kilomètres à parcourir jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais sachez qu'ici, le vent est tombé et qu'une brume a envahi la côte vendéenne et les Sables d'Olonne, désormais sous couvre-feu, même si cette brume est en train un petit peu de se lever. D'ailleurs, l'estimation d'arrivée de Charlie Dalin vient d'être repoussée. Il n'est pas attendu maintenant avant 20h30 sur la ligne. À cet instant, il pourra enfin savourer le moment. Mais contrairement aux éditions précédentes où le premier sur la ligne levait les bras en signe de victoire, eh bien là, même soulagé d'en avoir terminé, Charlie Dalin devra patienter pour savoir s'il gagne ou non ce Vendée Globe. Situation unique dans cette course. Hein. Il devra attendre en effet les arrivées de l'Allemand Boris Herrmann, actuel 3e, et de Yannick Bestaven, 5e, attendu sur la ligne en milieu de nuit. Ces deux navigateurs bénéficient respectivement de 6h et 10h15 minutes de compensation pour avoir participé aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier, ce qui pourrait bien, tout simplement bouleverser le podium.
En tout cas, vous ne bougez pas, vous les attendez. Merci Corinne Boulot.
Merci Isabelle. On vous retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h. La météo, 4 départements en vigilance orange, Anissa.
Il s'agit des départements des Alpes, hein, les Hautes-Alpes, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère en vigilance orange aux avalanches jusqu'à au moins vendredi minuit. Et puis, la Savoie et la Haute-Savoie ont une nouvelle vigilance maintenant aux pluies fortes. Donc attention, dans les Alpes, il va neiger toute la nuit. Demain matin, c'est la pluie qui va prendre le relais avec toujours des flocons à 2000 mètres d'altitude. Et puis un redout très net des températures, ce qui va favoriser effectivement les avalanches. Il pleut sur toutes les régions demain, sauf la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, la Provence et la Corse. Là, le ciel est encore ensoleillé, le temps est sec. Partout ailleurs, c'est parapluie obligatoire sous un ciel très gris. La tramontagne est toujours sensible dans le sud et puis le vent d'ouest se lève sur les côtes de la Manche. Les températures, 1 à 13 degrés demain matin, nous aurons 8 degrés à Paris. Et puis dans la journée, comptez 9 à 19, ça grimpe bien, il fait doux.
Ça grimpe fortement, effectivement, il va faire doux demain. Merci, merci
Alissa. Demain.
À demain. Dans quelques secondes, grand entretien exceptionnel à ne pas rater avec le patron de Sanofi France, Olivier Beaugilot. On a effectivement beaucoup de questions à lui poser. D'abord la carte blanche, elle est signée ce soir de l'économiste Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas Bouzou.
Bonsoir.
Et ce soir, Nicolas, votre parti pris sur les vaccins. Les entreprises françaises doivent en produire davantage, dites-vous.
Oui, alors en réalité, Julien, ce sont les entreprises du monde entier qui doivent produire des vaccins parce que la priorité mondiale aujourd'hui, c'est justement la production de vaccins. Tant qu'on n'a pas de traitement, tant que l'épidémie a des conséquences sanitaires, évidemment, mais aussi économiques et sociales qui sont aussi délétères, on doit se mettre en économie de guerre d'une certaine façon pour en sortir. Et ça, aujourd'hui, ça passe par la production de vaccins. Et donc, les dirigeants du monde entier, du privé, du public, doivent y penser, doivent s'organiser pour que l'on n'ait pas ce que l'on voit déjà en France, d'ailleurs, ce qu'on avait vu il y a quelques jours en Allemagne, au Danemark, mais que l'on commence à voir en France, c'est-à-dire un manque de vaccins.
Oui, mais justement, Nicolas, en France, il y a deux échecs pour l'instant retentissants. Sanofi, qui n'est toujours pas prêt, et l'Institut Pasteur, qui a abandonné son projet de vaccin.
Oui, vous avez raison, ce sont deux échecs qui en disent beaucoup d'ailleurs sur la problématique de la désindustrialisation de la France dans le domaine pharmaceutique, mais pas seulement. Et ce sont des sujets sur lesquels il faudra revenir. La question de la désindustrialisation, la question de la mauvaise articulation entre la recherche publique et la recherche privée, la question du manque de financement pour les traitements, pour les médicaments, pour les vaccins innovants. Mais la priorité, c'est d'avoir des vaccins. Ce ne seront pas des vaccins français, c'est dommage, mais il faut que notre outil industriels se mettent au service des vaccins qui ont été conçus par d'autres entreprises, des entreprises non françaises.
Alors c'est ce que va faire justement Sanofi qui vient de l'annoncer avec le vaccin Pfizer. D'ici à l'été, la production devrait débuter, mais on peut faire plus ?
Oui, bien sûr, on peut faire plus. On peut acheter aux laboratoires qui ont conçu des vaccins, donc en effet Pfizer, BioNTech et Moderna, on peut leur acheter des licences. Alors bien évidemment, il ne faut pas leur demander de mettre ces licences gratuitement dans le domaine public, il ne faut pas les obliger à faire ça parce que ce serait une spoliation et la prochaine fois que l'on aura besoin d'un traitement ou d'un vaccin innovant, bah, ces laboratoires seraient en mesure de nous dire, vous nous avez spolié une fois, on ne va pas trouver une solution une deuxième fois, donc il faut leur acheter contractuellement des licences et il faut être prêt à les acheter cher parce que ce sera de toute façon forcément rentable. Imaginez que Pfizer BioNTech nous dise, écoutez, une licence, elle doit compenser mes coûts de recherche et développement, elle doit compenser les profits que je ne réaliserai pas avec ce vaccin et donc c'est 50 milliards de dollars. Mais 50 milliards de dollars vu l'enjeu, si on s'y met ensemble l'Europe et les États-Unis, ça n'est rien du tout vu les conséquences dramatiques de la crise. Et donc, c'est cet effort industriel de guerre qui doit nous obséder, produire des vaccins pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir sortir de ce cauchemar.
Message entendu. Merci Nicolas Bouzou d'avoir été avec nous pour votre carte blanche.
Europe 1, Julien Bugier.
19h18, vous restez avec nous dans quelques secondes. Olivier Beaugilot est notre invité exceptionnel pour un grand entretien vérité. Il est le patron de Sanofi France. On va évidemment parler beaucoup de vaccins avec lui. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, grand entretien exceptionnel avec l'homme du jour, en quelque sorte, le patron de Sanofi France. Bonsoir Olivier Beaugilot.
Bonsoir Julien Bugier.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on a énormément de questions évidemment à vous poser et nos auditeurs aussi, on les entendra en partie tout à l'heure. Alors on va revenir bien sûr sur cette annonce que vous faites de mettre l'une de vos usines à contribution pour aider à produire le vaccin Pfizer-BioNTech. D'abord, j'ai une question personnelle à vous poser. Olivier Beaugilot, comment vous vivez le fait de ne pas avoir été capable de produire un vaccin aussi rapidement que les autres ? Vous êtes un capitaine d'industrie, vous êtes un compétiteur, Vous êtes investi d'une mission, j'imagine, vu les conditions sanitaires que l'on connaît et l'urgence à trouver un vaccin. Est-ce que vous le vivez comme un échec personnel ?
Ah non, pas du tout. Vous savez, j'étais venu sur votre plateau indiquer que pour développer un vaccin, il faut une dizaine d'années. On va être en capacité chez Sanofi de faire ce vaccin hein, très particulier en 18 mois. 18 mois, c'est déjà remarquable. Oui. Les autres sont allés plus vite.
Beaucoup
vous savez,
plus vite.
Beaucoup plus vite en utilisant d'autres technologies. Et c'est très bien.
Oui.
C'est très bien que Pfizer, BioNTech soient arrivés. C'est très bien que les autres soient arrivés. Mais Sanofi viendra un peu après et on aura besoin de ces doses-là. Et puis, je rappelle aussi, il y a 250 équipes dans le monde qui travaillent sur des vaccins.
Oui.
Il y en aura peut-être moins de 10% qui vont arriver jusqu'au bout. Et vraisemblablement, il y aura Sanofi. Puis, un autre point qui est
important. Mais vous avez entendu les politiques, vous avez entendu les échos de presse, vous entendez aussi les Français. D'ailleurs, on en a interrogé quelques-uns. Je vous propose d'en écouter un court extrait.
On était un pays de pointe dans ce domaine. On arrive après la Chine, après les États-Unis. Ils ne sont pas capables de nous donner un vaccin. Comment ça se fait ?
Peut-être qu'il a des équipes de chercheurs qui ne sont pas à la hauteur. Peut-être qu'il y a beaucoup de chercheurs qui partent à l'étranger voilà, parce que les rémunérations sont meilleures. Est-ce qu'il a un problème de recrutement, d'attractivité ?
Ça, c'est une très très bonne question. On va y revenir là-dessus, Olivier Bogilio.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'avec l'échec de Pasteur, il n'y a aujourd'hui aucun vaccin opérationnel, alors que les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Russie ont tous au moins un vaccin approuvé ou sur le point de l'être. Est-ce que c'est un échec français ?
Il y a à ce jour, effectivement, pas d'acte de vaccin français, mais ça va arriver. Encore une fois, 18 mois pour produire un vaccin, alors qu'on prend 10 ans en temps normal.
Oui, mais pourquoi les autres ont réussi et pas nous ?
Parce qu'ils ont utilisé une technologie qui est très particulière.
Et ça veut dire qu'on a raté quelque chose ?
Je pense qu'on n'a rien raté. On est en retard. C'est très différent. On a fait un choix en mars de l'année dernière d'utiliser une technologie qu'on maîtrise chez Sanofi,
oui.
qui est une technologie autour du vaccin grippal.
Vous avez manqué d'audace ?
Vous savez, on a fait un choix rationnel. Ceux qui ont avancé les plus vite sont ceux qui n'avaient qu'une technologie. L'ARN messager. Ceux-là sont allés très très vite. Les autres aussi, parce qu'ils n'avaient que cette option.
C'est un choix audacieux.
Ils ont fait un choix audacieux parce qu'effectivement, si on a vu cette discussion au mois de mars, je vous aurais dit, on ne sait pas si ce qu'ils vont faire va aboutir à quelque chose de positif. Il s'avère que nous, on a fait un choix rationnel.
Oui.
On a utilisé la technologie qui nous semblait être la plus conforme, la plus efficace, la plus connue pour
oui.
pouvoir aboutir à quelque chose d'efficace.
Alors, j'ai quand même épluché le rapport du Conseil d'analyse économique qui a été remis au Premier ministre sur la question. Parce que c'est vrai qu'au sommet de l'État aussi, on s'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas de vaccin français aujourd'hui qui soit opérationnel. Est-ce qu'on a, comme le dit le Conseil d'analyse économique, et je ne parle pas que de Sanofi, là, je parle aussi de Pasteur, est-ce qu'on a raté le virage des biotech ? Est-ce qu'on n'a pas aussi manqué d'investissement ? Sanofi, par exemple, a jugé l'ARN messager, vous venez de le dire, trop risqué, lui préférant des technologies plus classiques. Est-ce que, voilà, ça, ce sont des choix industriels qu'on a mal faits, des décisions qu'on a mal prises et qui, aujourd'hui, nous coûtent très cher, quand même.
Alors, il y a effectivement, si on regarde un petit peu plus haut, des pays qui ont fortement investi sur l'innovation. Il y a les États-Unis, ça fait aucun doute. Il y a d'autres pays qui, en ce moment où on se parle, investissent beaucoup sur l'innovation, c'est
oui.
la Chine. Et l'Europe, sur les sciences de la vie, est restée un petit peu au milieu du guet.
Oui.
Et c'est vrai que au moment où les modèles de recherche se transforment, où l'innovation est un peu partout, il faut être en capacité d'aller la chercher. Mais l'ARN messager, c'est un bon exemple pour Sanofi. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on travaille sur l'ARN messager. On a annoncé la création d'une usine en juin de l'année dernière où on sera capable de produire de l'ARN messager.
Mais Pfizer, ça fait depuis 2008, je crois, qu'ils sont avec BioNTech sur l'ARN messager. Donc, ils avaient déjà un train d'avance, grand train d'avance.
Non, je partage pas cette analyse parce que je pense que on a nous chez Sanofi aussi travaillé sur l'ARN messager très tôt. Mais au moment où on se parlait il y a quelques semaines, le choix de la protéine recombinante, qui est le vaccin qu'on a choisi de développer le plus vite, était probablement le choix le plus rationnel pour nous.
Alors, pour évoquer encore ces choix industriels qui ont été faits au niveau de Sanofi, mais aussi au niveau national hein, pour la France, il y a une question qui revient beaucoup et qui nous est notamment posée par le professeur Frédéric Lapostole, qui est directeur adjoint, vous le connaissez sans doute, du SAMU 93. On écoute.
Dans un contexte où la compétition est de plus en plus internationale, de plus en plus impitoyable, comment est-ce qu'on peut prospérer en réduisant la voilure en termes de recherche et de développement ?
Alors ça, c'est une très très bonne question, parce que c'est vrai que j'ai regardé les chiffres, hein, par conséquent. Réduction de la recherche et développement, en 10 ans, on est passé de 5300 salariés, je crois, chez vous, à 4100. Encore une fois, vous n'êtes pas les seuls responsables, mais est-ce qu'on a péché par manque d'investissement dans la recherche et développement ?
Alors ça, c'est un point très important. Sanofi investit 2 milliards d'euros par an en France dans sa R&D.
Oui, mais et c'est moins que les autres ou plus que les autres ?
Et on le fait, on est l'entreprise qui investit le plus en R&D du CAC 40.
Non, mais par rapport aux autres laboratoires,
et par rapport aux autres, on est dans les mêmes normes, mais en France, on est largement le plus grand investisseur en recherche et en développement. Ce qui est vrai, c'est que les modèles de recherche changent. Il nous faut de très bons chercheurs en interne qui sont très spécialisés dans leur domaine. On a à Vitry, nous, à côté ici de Paris, des chercheurs qui sont extrêmement brillants en cancérologie, qui trouvent là en ce moment des traitements dans le cancer du sein, dans le cancer du poumon. Ils sont très spécialisés et ces traitements, ils vont être trouvés, développés, produits en France. Mais le modèle de recherche évolue aussi. Il faut qu'on soit capable d'aller anticiper et acheter des sociétés qui innovent. Oui. Et on le fait aussi. On le fait aussi chez Sanofi. Il y a 10 jours, on a acheté une société pour plus d'un milliard dans les maladies inflammatoires. Il y a 6 mois, on a acheté une société qui développe un médicament dans la sclérose en plaques, absolument remarquable, qui est une société qui est effectivement aux États-Unis, mais qui va avoir un impact très fort en France, puisque le produit sera produit à Sisteron dans une usine dans laquelle on a investi 60 millions d'euros. Donc vous voyez, les modèles de recherche changent et il y a quand même un bénéfice pour la France et pour la recherche française.
Alors on parlera plus largement tout à l'heure de la recherche française et puis on s'intéressera également à ces annonces avec Pfizer BioNTech. Et puis votre vaccin, vous nous direz quand même quand est-ce qu'il arrive et quelle efficacité il aura pour les patients. On se retrouve dans quelques secondes, toujours avec notre invité Olivier Bogilot, patron France de Sanofi.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on poursuit le grand entretien ce soir du Club des Idées. Grand entretien exceptionnel avec l'homme du jour, le patron de Sanofi France, Olivier Bogilot, qui a accepté notre invitation pour un entretien vérité. Alors votre vaccin, on en parlait juste avant la pause, le vaccin donc Sanofi, quand sera-t-il prêt ?
Alors on réengage là une étude avec une dose un peu supérieure puisque la dose qu'on avait initialement utilisée n'apportait pas l'efficacité qu'on attendait chez les plus de 65 ans. Donc on rattaque une étude là qui va commencer dans quelques jours. Ils vont nous apporter leurs résultats au courant du mois de mai. Une fois qu'on aura les résultats, on lancera une étude de phase 3, une étude un peu plus large. Et on commencera la production du vaccin simultanément pour être prêt au dernier trimestre de l'année à fournir les doses une fois qu'on aura tous les résultats.
Au dernier trimestre de l'année ?
Oui.
Donc ça veut dire pas avant l'automne ?
Pas avant l'automne.
Donc ça a pris du retard ?
Ça, on a pris...
Je crois que la dernière fois que vous êtes venu me voir, vous m'annonciez fin du printemps, début de l'été.
On était plutôt effectivement sur juin-juillet, mais encore une fois, si tout s'était très bien passé pour nous, entre le mois de mars et le mois de juin, ça faisait 15 mois pour développer un vaccin. 15 mois. C'est extrêmement rapide. Encore une fois, 10 ans en général, là ça faisait 15 mois. On a eu ce qui arrive régulièrement dans le cadre d'un développement d'un vaccin ou même d'un médicament, à redéfinir la dose la plus favorable pour notre vaccin. Ça nous décale de quelques mois. Voilà, ça sera 18 mois. Mais j'avais annoncé, moi, dès le début de cette crise au mois de mars, qu'il faudrait entre 18 et 24 mois. Donc, vous voyez, on va être dans le timing qu'on avait annoncé.
J'en finis avec avec le Sanofi bashing. Je voudrais simplement... parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de politiques qui s'en donnent quand même à cœur joie. Voilà, je pense à Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, qui dit par exemple ceci.
C'est quand même une honte, c'est l'humiliation de la France, pas capable de vacciner, pas capable de mettre un vaccin sur le marché, et qui licencie des chercheurs, la honte.
Sur le licenciement des chercheurs, il a raison ou pas ?
Ah non, non. On a annoncé il y a quelques mois, et je vous l'avais dit aussi ici, un plan de départ volontaire.
Oui.
Volontaire.
Mais ça n'a pas de lien de cause à effet.
Non, non. Et ça touche d'abord pas du tout notre division vaccin. Ça n'a rien à voir avec le vaccin. Je suis toujours surpris parce que vous savez, on nous reproche d'être en retard en ce moment et de ne pas être innovant. Et en même temps, on nous reproche de nous transformer pour être plus innovants.
Oui.
Donc il va falloir trouver un bon équilibre
et
aussi chez les politiques.
Ce genre de déclaration, parce que là c'est le Parti communiste français, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est le cas à droite, c'est le cas à gauche, c'est le cas République en marche aussi d'ailleurs, la majorité. Ça vous fait mal au cœur ça ?
Oui, ça nous fait mal au cœur parce que je pense qu'il faut avoir une certaine fierté d'avoir sur son territoire un laboratoire de la taille de Sanofi, qui est un géant industriel mondial et qui est présent sur tous les continents du monde et qui s'est engagé dans cette crise comme probablement aucun autre laboratoire. On a très tôt augmenté nos capacités de production. On a très tôt cherché des traitements disponibles. On a très tôt lancé des programmes de vaccination. On en a deux.
Oui.
On est le seul laboratoire du monde à avoir deux programmes de vaccination contre le
COVID-19. Mais avec un résultat qui tarde. Alors, vous me disiez...
On a annoncé qu'on allait travailler aussi avec un de nos concurrents pour fournir plus de doses.
On va en parler justement de ça.
Donc
parce
je suis
que
un peu
c'est un point très très important. Ben merci de votre franchise et de votre sincérité. Ce vaccin Sanofi, à l'automne, quand il sera prêt, est-ce que vous n'allez pas arriver après les autres? Est-ce qu'il y aura encore un marché pour le vaccin Sanofi?
Alors vous voyez bien, en fait, le sujet des vaccins, c'est qu'il faut les trouver, il faut les développer et ensuite il faut les produire.
Parce qu'Olivier Véran, il nous dit que tout le monde sera vacciné cet été. Bon, on verra si c'est possible.
Il l'a dit avec une petite nuance. Il l'a dit, tout le monde sera vacciné si on reçoit toutes les doses de vaccins qui nous ont été annoncées.
Mais il y aura encore de la place pour le vôtre.
Et vous avez entendu comme moi qu'en fait, les doses de vaccins annoncées, elles ont un peu plus de difficultés à arriver. Et on pense que de toute façon, on aura notre place sur des patients français ou européens s'il y a un besoin, il va falloir vacciner des milliards de personnes dans le monde. Donc nos doses, elles seront utilisées. Et puis il y a aussi une incertitude à ce stade que y compris les chercheurs ne maîtrisent pas, qui est-ce qu'il va falloir se vacciner régulièrement?
Oui.
Donc vous savez,
oui, comme la grippe saisonnière.
Exactement. Donc le fait d'avoir un vaccin Sanofi disponible avec cette technologie de la protéine recombinante avec son adjuvant, c'est quelque chose qui sera utile.
Est-ce qu'il aura, pour être tout à fait clair, Olivier Bogilot, une efficacité aussi importante que les vaccins ARN messagers qui tournent autour de 70 à 90%?
Alors, les vaccins ARN messagers ont une efficacité qui est effectivement remarquable. Je ne sais pas si le vaccin de Sanofi, c'est trop tôt, on n'a pas encore les résultats de notre étude, aura ce niveau-là d'efficacité.
Mais il va falloir se mettre au standard, si je puis dire. Parce que si vous avez une efficacité qui est bien moindre, ça a été le cas de Pasteur, par exemple, qui a préféré abandonner, ça veut dire qu'il n'y aura pas de marché pour vous.
Il faut une efficacité qui soit significative, mais il faut aussi prendre en compte les autres spécificités du vaccin qu'on va apporter.
Par exemple
Par exemple, le fait qu'il soit conservé à une température entre 2 et 8 degrés, le fait qu'il soit plus stable, le fait qu'on puisse le distribuer plus facilement.
Et qu'il soit efficace pour toutes les populations.
Et qu'il soit efficace dans toutes les catégories de population, effectivement. Et puis, vous savez, il y a plusieurs types de vaccins. Il y a les ARN messagers, mais les ARN messagers, si leur efficacité diminue dans le temps, peut-être que le fait d'avoir un autre type de vaccin à mettre derrière les ARN messagers sera utile. Il y a d'autres catégories de vaccins, ceux d'AstraZeneca, par exemple, dont on sait que ce type de vaccin peut avoir une efficacité qui décroît au cours du temps, au fur et à mesure des vaccinations que vous recevez. Donc, vous savez, on découvre beaucoup de choses autour de cette pandémie chaque jour. On pense qu'on aura notre place et qu'on apportera une efficacité importante.
Alors, on va parler maintenant, Olivier Bogilot, de cette annonce très très importante de coopération avec Pfizer-BioNTech. Vous allez donc aider à produire, vous allez nous expliquer, 100 millions de vaccins pour le compte de l'Américain. Pourquoi avoir choisi d'abord une usine allemande
pour le faire?
Qui sera, je crois, à côté de Francfort.
Oui, c'est en fait notre usine sera à Francfort. Elle est à quelques kilomètres en fait de là où va être produit le vaccin de BioNTech. Et vous savez, c'est un vaccin qui est conservé à moins 80 degrés.
C'est du circuit court.
Et donc on fait un circuit très court, ce qui permet sur ce vaccin qui est très fragile de ne pas avoir à faire de longues distances. Ça permet d'être à quelques kilomètres et de venir rapidement sur nos lignes de production. C'est donc un vrai intérêt géographique.
Alors, ce matin, dans le Figaro, le grand patron monde de Sanofi, le PDG, indiquait que cette production de vaccins, elle commencera cet été, en juillet ou en août, je crois. Vous allez nous le confirmer. Pourquoi attendre l'été pour commencer à produire?
En fait, parce qu'il va falloir d'abord commander des machines, parfois les construire. Il va falloir que ces machines arrivent dans l'usine. Encore une fois,
Attendez, je vous arrête pour que chacun comprenne, parce qu'on ne connaît pas forcément le fonctionnement de votre industrie. Ça veut dire que vos lignes de production aujourd'hui, elles ne sont pas adaptées en l'état à produire ou à aider à produire le vaccin Pfizer-BioNTech? C'est des technologies qui sont propres?
C'est des technologies qui sont très particulières, puisque vous savez, pour produire un vaccin, il faut être dans un environnement stérile. Pour ce vaccin particulier, on a une température qui est extrêmement basse, moins 70, moins 80 degrés. Il faut que chaque flacon qui sorte soit totalement conforme au flacon précédent. Il y a des éléments de qualité. Donc, on va acheter des machines, on va, pour certaines, les construire. On va former nos équipes. Ensuite, il y a les autorités réglementaires qui vont venir voir pour que tout soit parfaitement conforme. Il faut qu'on soit parfaitement en sécurité sur chaque flacon qui va sortir.
Mais ce n'est pas vous qui allez produire le produit?
Non, le vaccin ARN messager est produit par BioNTech. Il nous est livré. Le vaccin, il est extrêmement fragile. C'est pour ça qu'il est à si basse température. Et c'est pour ça que le mettre dans des flacons, ça nécessite un savoir-faire, une technicité et un niveau industriel avec des capacités très fortes. Sanofi est probablement unique au monde.
Parce que, attendez, pour bien comprendre les choses, ça veut dire que dans l'usine qui va se trouver juste à côté de la vôtre, Pfizer-BioNTech, ils produisent le liquide, le produit vaccinal, hein, qui est...
L'ARN messager.
L'ARN messager, voilà, merci de m'aider. Mais ils n'ont pas suffisamment de bras pour le mettre dans les doses. Et vous allez les aider à les mettre dans les doses.
Exactement, ils ont une capacité de production de cet ARN messager qui ensuite arrive pour être mis dans des flacons et ils n'ont pas suffisamment d'usines disponibles pour pouvoir les mettre en flacons. Et encore une fois, ça nécessite des usines très particulières, stériles, basse température, des robots particuliers, oui, des compétences particulières. Et on s'est mis...
En fait, c'est un nouveau boulot pour vous. Vous devenez un sous-traitant, d'une certaine manière.
C'est une sous-traitance extrêmement experte.
Oui. Alors, 100 millions de doses qui seront produites, si j'ai bien suivi, entre juillet et la fin de l'année. Ce matin, la ministre Agnès Pannier-Runacher précisait qu'environ 15% seraient réservés aux Français. Vous confirmez ?
En fait, c'est dans le cadre de l'accord qu'a BioNTech avec l'Union européenne qu'il y a une répartition des doses en fonction des populations. Donc, en fait, ces doses vont venir s'ajouter au contingent de doses qu'ils avaient déjà disponibles et qu'ils distribuent dans les différents pays européens, effectivement.
Qu'est-ce que vous gagnez, vous, dans cette opération, Sanofi ?
Nous, on considère que c'est un effort de solidarité et presque un devoir. On a une mission. Vous savez, quand on a eu le retard sur notre vaccin...
Mais vous gagnez un petit quelque chose, quand même, comme tous les sous-traitants.
On se place, effectivement, dans une forme de sous-traitance, mais on est un sous-traitant très particulier parce que très peu de sous-traitants sont capables de délivrer 100 millions de doses en 6 mois. Mais ce n'est pas une question économique pour nous. On se place dans le marché de ce type de ligne de production. Ce n'est pas une question économique. Notre intérêt, c'était d'utiliser notre savoir-faire et nos capacités industrielles pour permettre d'avoir 100 millions de vaccins. 100 millions de vaccins, ça veut dire 50 millions de personnes protégées. Oui. Et c'est peut-être aussi des vies sauvées.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez reçu une pression amicale du gouvernement, de l'exécutif, peut-être du président de la République, pour accepter ou en tout cas accélérer ce deal avec Pfizer-BioNTech?
Alors, on n'a pas besoin de la pression de l'exécutif pour réfléchir sur ce genre de choses, mais on travaille très bien avec le gouvernement français. On savait qu'il y avait des besoins. On travaille très bien aussi avec les experts qui travaillent avec le gouvernement français. Et comme vous, hein, comme nous tous, on a vu qu'il y avait des problèmes de capacité de production. Et quand vous avez l'outil industriel, c'est un devoir. Et vous savez, les équipes, elles en ont eu envie. Elles ont dit, on sait faire, on peut faire, on doit faire.
Comment vous expliquez d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure dans le journal, cette polémique autour des retards de livraison et donc de production du vaccin AstraZeneca? C'est quand même une grosse affaire. Hein. La Commission européenne s'est fâchée très fort parce qu'on va être livré que de 25% de ce qui était prévu dans les prochains mois. Comment vous, qui connaissez ces marchés de fabrication, de production, de livraison et toute l'infrastructure qui va autour, comment ça se fait qu'on soit si en retard?
Encore une fois, je pense qu'il faut bien remettre les choses dans leur contexte sur les vaccins. Il faut les chercher, il faut les développer, donc il faut faire les études pour pouvoir démontrer leur efficacité et ensuite il faut les produire. Donc vous avez effectivement des concurrents de Sanofi qui sont arrivés très vite sur le marché parce qu'ils ont été vite sur la recherche, vite sur le développement. Et après, vous avez la composante de la production. La production, ce n'est pas simple sur un vaccin. Donc vous devez... Un acteur comme AstraZeneca, c'est un acteur qui n'est pas dans le vaccin, ce n'est pas son métier. Hein. Ils n'avaient pas de vaccin avant, ils font appel à toute une série de sous-traitances. Et ça, ce n'est pas simple, ça nécessite une vraie expertise. Je suis quand même le premier à regretter qu'ils ne soient pas en capacité de livrer, parce que ce qui est important en ce moment pour les Français,
et je crois
que Nicolas Bouzou l'a dit tout à l'heure, le seul moyen de sortir de cette crise, le seul moyen de retrouver une vie normale, le seul moyen d'enlever nos masques et de retourner au restaurant dans les semaines, dans les mois qui viennent, c'est qu'on se vaccine massivement. C'est exactement dans cet état d'esprit qu'on se situe, nous, en se disant, produisons un vaccin pour les Français, et s'il faut aussi produire celui des autres, faisons-le.
Alors, Justement, puisque vous me parlez de stratégie vaccinale, Olivier Beaugilot, je sais que vous ne faites pas de politique, mais comment vous jugez la politique vaccinale française qui a été beaucoup critiquée à ses débuts? Il y a des pays qui font bien mieux que nous, je pense à Israël notamment, c'est peut-être un cas particulier. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'on aurait pu faire différemment?
C'est très difficile de répondre à cette question parce que, vous voyez bien, il y a des enjeux. Il y a peut-être eu, le seul commentaire que je peux faire là-dessus, c'est qu'il y a peut-être eu un peu trop d'appréhension pour ceux qui redoutaient la vaccination. Mmh. Et en fait, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que les Français, ils ont envie de retrouver une vie normale, donc ils ont envie de se faire vacciner, donc ils avaient envie de se faire vacciner rapidement.
Oui.
La stratégie, elle a été arrêtée par les autorités de santé. On a voulu vacciner en premier les plus fragiles. On a raison, il faut vacciner les plus fragiles en premier. Après, il faut monter en charge.
Mais on n'avait pas la logistique qui suivait pour aller vacciner ces gens et les chercher là où ils sont, c'est-à-dire dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, chez eux pour les plus de 75 ans qui ne peuvent plus se déplacer. Voilà, c'est aussi ça qui a péché aujourd'hui, c'est le manque de doses. Il y a Olivier Véran qui s'est fixé un objectif très très ambitieux quand même. Vacciner la quasi-totalité des Français, en tout cas ceux qui le veulent, d'ici à l'été. Alors, je le cite souvent parce que je trouve que ce logiciel est formidable. Covid Tracker, vaccin tracker, oui, qui a été développé par des petits génies français. On y apprend que pour arriver à cet objectif, il faudrait vacciner 450 000 personnes par jour. C'est impossible.
À ce stade, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Pour vacciner 450 000 personnes par jour, il faut déjà avoir les doses et il faut avoir l'ensemble de la logistique derrière. C'est difficile. Il va y avoir une montée en charge quand même au fur et à mesure que les doses arrivent et que vous devez vous vacciner la population générale. Vous allez faire appel à d'autres acteurs qui sont extrêmement efficaces. Je pense aux médecins de ville, je pense aux pharmaciens. Nous, chez Sanofi, chaque année, on est un des acteurs majeurs dans la vaccination grippale.
Oui.
On a autorisé, il y a quelque temps, les pharmaciens à être en capacité de vacciner et on voit que ça se passe très bien et que ça se passe très vite. Je pense qu'une fois qu'on fera appel à ces acteurs-là, on pourra monter en charge. Mais pour ça, il faut des doses.
Alors, oui, il faut évidemment des doses. Il faudrait un vaccin Sanofi, Olivier Beaugilot. On va revenir là-dessus.
Il va arriver, rassurez-vous, Julien Bugier va arriver.
On va revenir, on l'espère, tous les Français l'espèrent. On va revenir là-dessus pour terminer, parce que c'est vrai qu'il y a aussi un symptôme qui est vécu comme ça d'un déclassement français, mais qui n'est pas que lié à Pasteur et à Sanofi, qui est lié aussi à des choix industriels, à des choix qu'a fait la France, à un manque structurel d'investissement privé, structurel d'investissement public. Je reprends une phrase qui m'avait beaucoup marqué, celle de la prix Nobel de chimie, la chercheuse française Emmanuelle Charpentier, qui expliquait, lorsqu'elle a gagné son prix, qu'en France, on ne finance plus la recherche, en tout cas pas assez. D'ailleurs, elle est partie travailler à Berlin. Voilà, c'est assez symptomatique du mal français quand même, ça.
Non mais ça, c'est un point très important, parce qu'effectivement, quand vous faites des choix stratégiques, et certains États l'ont fait, je le disais tout à l'heure, les États-Unis ont fait le choix de considérer les sciences du vivant, donc l'industrie pharmaceutique, les biotechnologies, comme un secteur stratégique. Et quand vous considérez un secteur comme stratégique, vous faites quoi ? Vous mettez massivement des investissements publics.
Oui.
Les investissements publics, ils font quoi ? Ils attirent les investissements privés. Et puis, ils attirent les meilleurs chercheurs. Et puis, vous commencez à avoir une sorte de chimie qui s'opère, si je puis dire, entre le secteur de la recherche académique, les universités, hein, et puis les petites start-up et les grands groupes. Et tout ça permet de générer des médicaments, de la science, etc. Ça a très bien marché aux États-Unis, dans des environnements comme Boston, comme la baie de San Francisco, comme New York, comme Washington. En Europe, on a un peu regardé ça de loin, parce que on a d'abord vécu la crise de 2008 en mettant beaucoup de pression sur le prix des médicaments,
oui,
en faisant beaucoup d'économies sur les médicaments.
Oui. Et puis on a tout externalisé, on a été produire ailleurs, on a aussi été chercher des savoirs ailleurs. Il y a un exemple qui m'a beaucoup frappé là, dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'entreprise nantaise de biotech qui s'appelle Valneva, je pense que vous la connaissez, qui va se faire financer en Grande-Bretagne. Pourquoi en Grande-Bretagne ? Eh bien parce que la France n'a pas répondu assez vite à ses demandes de financement. Ils sont en capacité, disent-ils, de produire 50 millions de vaccins à partir de l'automne. C'est sidérant quand même.
C'est là où effectivement on a de grands progrès à faire. Il faut que ce soit d'abord pas exclusivement France. Je pense que l'Europe doit se doter d'outils et d'une vraie politique sur la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique. On a beaucoup parlé de la souveraineté européenne en matière de médicaments parce qu'on avait une dépendance vis-à-vis de la Chine, souvent sur des médicaments essentiels mais anciens. Ça ne suffira pas. Il faut aussi qu'il y ait des investissements massifs dans la recherche, le développement, les nouvelles technologies. Et je pense qu'il y a une prise de conscience avec cette crise. J'ai entendu l'exécutif, le président de la République s'exprimer sur ce sujet-là. Il est très conscient qu'il faut davantage d'investissements dans la recherche, davantage de capacités de production, de bioproduction,
oui.
Et puis aussi quelque chose qui, pour lequel on a énormément d'atouts en France, de l'intelligence artificielle, des mathématiques. On a les meilleurs mathématiciens du monde en France. Nous, on a investi il y a deux jours dans un incubateur pour analyser les données de santé. On a ces capacités-là aussi en France, il faut les utiliser.
Olivier Bogilio, ma dernière question sera la suivante. Est-ce que vous vous ferez vacciner par conséquent par un vaccin Pfizer-BioNTech à défaut d'avoir un vaccin Sanofi ?
Ah, vous savez, alors ça c'est une réponse qui est très claire. Je me ferai vacciner par n'importe quel vaccin parce que je veux retrouver une vie normale et je veux pouvoir retourner au restaurant et je veux que l'économie reparte et qu'on puisse retrouver nos familles, enlever nos masques. Je suis profondément attaché à la vaccination parce que vous savez, après l'eau potable, c'est ce qui a sauvé le plus de vies dans le monde.
Bien. Merci infiniment, Olivier Bogilio, pour votre franchise et d'avoir accepté de vous prêter à ce grand entretien en répondant à toutes les questions.
Avec plaisir.
Merci infiniment.
Europe 1, Julien Bûcher.
19h49, on se retrouve dans quelques secondes avec les archives d'Europe Soir. Et ce soir, on va vous parler d'un duo de choc du cinéma français.
Ça fait trois fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo... Oui, qu'est-ce que c'est ?
Allez, un peu sur votre gauche, là-bas.
Un peu sur votre gauche, de Finesse Bourville, on en parle. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h52, et ce soir, vous allez voir, on va vous régaler avec les archives d'Europe Soir. Quand le passé éclaire le présent, 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
Une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Avec des archives absolument formidables, vous allez comprendre. Bonsoir Rémi Botsaron.
Bonsoir Julien.
Alors, on est le 27 janvier 83, il y a 38 ans exactement, et on va revenir à travers la disparition de l'un des plus grands acteurs comiques français, Louis de Funès, pour ne pas le citer. On va revenir sur un duo de choc du cinéma français, Louis de Funès et Bourville.
Et oui, cette disparition de Funès, c'est donc le 27 janvier au soir. Il est victime d'une crise cardiaque, et dès le lendemain, les hommages affluent sur l'antenne d'Europe 1. Notamment celui du réalisateur Gérard Oury.
De Funès, c'est un personnage qui m'a fait rire, mais à pleurer. Et il se trouve que quand j'ai eu l'idée du Corneau, j'avais tourné avec Bourville comme comédien. Il m'a dit « À qui penses-tu pour l'autre rôle ?» J'ai dit « Écoute, j'ai pensé à De Funès. » Et il m'a dit « Moi, j'aimerais beaucoup tourner avec De Funès. » Et quand j'ai été trouvé De Funès, il m'a dit « Écoute, c'est très amusant et j'adorerais tourner avec Bourville. »
On l'entend quand il évoque De Funès, il évoque aussi forcément Bourville, disparu lui quelques années avant.
Il faut dire qu'ils ont tourné 5 films ensemble. Alors d'abord dans les années 50, Poisson d'avril, Les Hussards, La Traversée de Paris, mais surtout dans les années 60, les deux plus grands succès de De Funès, à commencer par Le Corneau.
Qu'est-ce qu'il y a,
franchement, on l'a vu des dizaines de fois, le film marche toujours bien. Ouais. Cette scène est entrée dans l'histoire, Rémi, du cinéma, mais en fait, De Funès et Bourville n'ont pas du tout le même statut à l'époque.
Non, quand il tourne Le Corneau en 64, Bourville est déjà une star. De Funès, lui, est encore un second rôle. On est juste avant la sortie du Gendarme de Saint-Tropez. Et cette différence de statut va poser problème sur le tournage. Un jour, De Funès regarde les rushs et il se rend compte que Bourville a beaucoup plus de scènes que lui. Alors, il décide de faire la grève du masque. C'est-à-dire qu'il décide de ne plus faire de mimiques ou de grimaces. Bref, tout ce qui fait son succès.
Et ça marche ?
Eh bien, il obtient deux scènes supplémentaires écrites pour lui, notamment celle où il se retrouve dans la douche d'un camping à côté d'un impressionnant culturiste, une scène burlesque où il se moque lui-même de son physique de gringalet, une scène qu'il évoque avec Bourville quand il se retrouve sur l'antenne d'Europe 1 en 66, émission étonnante où les deux hommes parlent ensemble de leur parcours, de leur vie et notamment du régime entrepris alors par De Funès.
J'ai perdu 2 kilos, par exemple. À un moment, je les ai repris depuis. Mmh.
Ah oui, c'était... Et pourtant, dans le Corneau, là, quand tu te déshabillais à côté de...
Duranton.
Duranton. C'était pas mal.
C'est pas mal.
Enfin, il faut s'y faire, quoi. Mais enfin...
Même en interview, quand ils sont normaux, on a l'impression qu'ils jouent un rôle. C'est assez génial. Visiblement, ils s'entendaient très bien, en tout cas.
Oui, même s'ils ne se voyaient jamais, en fait, en dehors des tournages, c'est ce qu'ils disent. La complicité est pourtant évidente hein, sur notre antenne ce jour-là. On est alors au lendemain de la première projection de La Grande Vadrouille.
Évidemment, ce n'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là.
Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte.
Quoi ?
Que vous me prêtiez vos souliers.
Bah, vous chaussez du combien ?
J'ai du comme vous.
Ah bon ?
Ah, ben là, ça va mieux.
Ça marche aussi toujours.
Ouais, ouais, ça marche très très bien.
La Grande Vadrouille qui est donc présentée pour la première fois en décembre 66 à Paris.
Tu étais hier soir à la première de La Grande Vadrouille ?
Oui. Ah, j'ai eu beaucoup de succès, oui.
Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient en sortant, les gens ?
Ah, oh, de funesse.
Ah bon ?
C'était gêné un peu. J'étais un petit peu gêné, quoi.
Non, mais blague à part. Personnellement, toi, est-ce qu'il te plaît autant que Corniaux ?
Il me plaît plus.
Et ça fera encore plus de succès que le Corniaux. La Grande Vadrouille est un triomphe et on s'occupe les deux, le Corniaux et la Grande Vadrouille pour ce duo de finesse Bourvil. Ça donne plus de 30 millions de spectateurs en salle.
Waouh, ça fait rêver tous les réalisateurs et tous les comédiens du monde entier. Merci Rémi, c'est vrai qu'on pourrait faire une heure d'émission avec
ah ouais, avec ces archives, ouais. Et les extraits.
Merci Rémi pour ces archives.
Europe 1, Julien Bugier.
19h56, dans un instant, le rappel de l'info avec Julien Pierce. Et puis on va retrouver Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Comment ça va ?
Ça va très bien, parce que ce soir, mon invitée, je l'aime tant. Elle nous offre deux titres en acoustique. Elle est nommée aux Victoires de la musique dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'année. C'est Suzanne.
Je serai romantique avec les meufs sur Tinder. Pas de dick pic, des cœurs de toutes les couleurs. J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber.
Suzanne, qui vient de ressortir son album Toy Toy, une édition augmentée avec de nouveaux titres. Elle va nous en parler ce soir dans Musique.
Eh ben, on sera au rendez-vous. Merci Émilie.
Merci Julien.
Bonne émission et on se retrouve demain évidemment. C'est Élise Dangean qui sera dans quelques instants à l'antenne d'Europe 1 pour le rappel de l'info. Merci de votre fidélité. À demain, même lieu, même heure, à partir de 18h.